Je vais revenir également très régulièrement sur le thème de l'évangélisation, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous avons été sauvés pour servir. Un jour, on nous a rendu témoignage. Je donnerai certainement, au fil du temps, des différentes prédications sur ce sujet, parce que c'est un thème très vaste. Je donnerai des témoignages. Mais nous avons, à un moment donné, été l'objet de la miséricorde de Dieu, bien sûr, mais l'objet surtout, et ça va être le point sur lequel je vais m'arrêter pendant deux ou trois dimanches sur le, par rapport à l'évangélisation, c'est le mot compassion. Nous avons été l'objet de la compassion. Pas seulement de Dieu, ça ne fait aucun doute, de Jésus, ça ne fait aucun doute, mais je vais parler de la compassion qui doit être la nôtre. Car pour gagner des âmes, il faut être patient, il faut être fervent, il faut être à genoux, dans la prière, et il faut être disponible. S'oublier un petit peu, penser à ceux qui nous entourent. Et puis, avec cet ingrédient important qu'est la compassion. 2 Chroniques, on va lire quelques versets. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1er. Excusez-moi. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1er, on va lire les 15 premiers versets de ce chapitre. Et nous lisons, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Akaz fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fut éprouvé une grande défaite. Pekach, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda, je vous rappelle qu'il y a le schisme, hein, Israël et Juda d'un côté, et tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azricam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils amenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux, jusqu'à Dieu. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Shoshanan, Berechia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shalum, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée. Et ils leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables de la colère ardente de l'Éternel et sur Israël. » Alors les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes, dont les noms viennent d'être mentionnés, se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent et ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Alléluia. Amen. On va y revenir là-dessus. Juste un verset dans le psaume 116, verset 5. Il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Alors revenons à notre texte. Il est question de ce roi de Juda, roi Akaz. Et cet homme a une conduite exécrable, coupable devant Dieu. On en a fait la liste. Et la conduite de ce roi de Juda, de ce roi Akaz, va amener le Seigneur, l'Éternel, à le livrer en premier lieu entre les mains des Syriens. Puis, juste après, entre les mains du roi d'Israël. 120 000 hommes sont tués, puis en plus des hommes vaillants, mais ils sont tués. Et 200 000 hommes, femmes, fils, filles sont faits prisonniers. Et la raison de cette situation tragique, la raison, et nous l'avons lu, c'est que ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. En définitive, quand on se détourne de Dieu, ou qu'on repousse Dieu de notre vie, qu'on se détourne de l'Éternel, quand on met Dieu dehors, quand on met Dieu au second plan, il va donc manquer la compassion, la miséricorde, l'amour, l'obéissance à Dieu, bien sûr. Et tout ça à cause d'un homme, roi, qui n'a pas suivi le témoignage spirituel de David. Il a choisi de suivre, malheureusement, eh bien, tout ce qui est en abomination aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait, eh bien, d'autres avant lui. Et ça a mené le peuple, donc d'Israël, de Judas, pardon, dans une situation extrêmement compliquée. Mais je me rends compte dans ce texte que nous avons lu que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Amen. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Et il va donc se servir d'un autre homme. C'est le prophète Oded. Dieu est toujours prêt à se servir de celui et de celle qui est prêt à faire sa volonté. Et faire la volonté de Dieu, c'est chercher cette position spirituelle, je le répète, de miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu, elle durera toujours. Mais la nôtre doit durer aussi à toujours. C'est de chercher cette position de compassion, car effectivement, j'ai dit que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, c'est le prophète Jérémie qui le rappelle, alors qu'il se lamente face à la situation d'Israël. Mais il faut que notre compassion ne soit jamais à son terme. Et pour que toutes ces particularités spirituelles, tous ces principes spirituels divins, pour que nous puissions les vivre, eh bien, il nous faut être réellement sensibles à Dieu et à ce que Dieu veut. Et cet homme, le prophète Oded, va manifester beaucoup de courage. Il va aller vers les vainqueurs pour leur dire, écoutez, renvoyez tous ces captifs, parce que en plus, ce sont vos frères. J'ai rappelé pendant la lecture qu'il y a eu le schisme, d'accord ? Mais le schisme n'est pas voulu de Dieu, hein ? C'est à cause de la folie, du cœur de l'homme. Bref, il faut revenir dans l'histoire et le contexte, mais je n'ai pas le temps de le rappeler. Donc, ceci étant dit, ce prophète va leur dire, ce sont vos frères que vous amenez captifs. Ce sont vos frères. Et en agissant ainsi, la colère de Dieu est ardente. Elle est forte contre vous. Dieu veut faire comprendre que et par le biais de ce prophète, que la victoire qu'ils viennent de vivre n'est que le résultat de la colère de Dieu contre Judas, mais que Israël était allé trop loin, car ils avaient massacré. Ils n'avaient manifesté aucune compassion, aucune miséricorde. Dieu a permis certaines choses, mais Dieu n'a pas demandé au peuple d'Israël, au peuple, pardon, de Juda, d'aller au-delà. Parce qu'il est écrit qu'ils ont agi avec une rage qui est montée jusqu'aux cieux. Il y a des limites à ne pas dépasser. Quand nous sommes face au monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, un chrétien né de nouveau, n'est pas quelqu'un qui doit regarder cette société comme étant une société à abattre. Le chrétien est de nouveau qui est en connexion avec le cœur de Dieu, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il regarde le monde, la société, comme étant un monde perdu, certes, fou, certes, mais un monde qui a besoin de la grâce qui découle de la croix du calvaire. Et la démarche que je vais faire, que nous sommes appelés à faire, n'est pas une démarche calculée. C'est une démarche spontanée d'amour et de compassion pour gagner des âmes. Je ne vais pas gagner des âmes en restant assis sur ma chaise et en disant « Seigneur, envoie-les », ça veut rien dire. Je vais gagner des âmes en me mettant au travail. Je vais gagner des âmes en allant au-devant des âmes. Je vais gagner des âmes en prenant le temps de m'oublier moi-même pour prendre soin de ces âmes. Et j'aurai l'occasion d'y revenir et d'y revenir encore. Je l'ai dit avec ce mot compassion. Mais là, ça m'intéresse ce que Dieu nous montre ici par sa parole. Ils ont agi avec une rage qui était parvenue jusqu'aux cieux. C'est quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et maintenant Israël voulait s'assujettir comme serviteurs et servantes les fils de Juda, leurs frères, ceux qui venaient de Jérusalem. Mais la compassion, effectivement, n'était pas dans le cœur de ces hommes de l'armée d'Israël. C'était de la rage. C'est de la violence. C'était de la vengeance. C'était toutes sortes de sentiments charnels, mais pas du tout spirituels. La société dans laquelle nous vivons, c'est Dieu qui dirige les choses comme il veut. C'est pas moi à dire à Dieu ceci, cela. Non. Moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de prier pour mes contemporains, pour mes concitoyens, et de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton intelligence, donne-moi d'être équipé par la puissance du Saint-Esprit avec l'évangile pour distribuer l'évangile, communiquer l'évangile, au lieu de regarder à moi et à mon nombril. Et de venir prendre mon petit culte et je retourne chez moi, il n'y a plus rien. Quelque part, même s'il n'y a pas de violence apparente dans ce que je pense, dans ce que je fais, dans ce sens-là, eh bien, aux yeux de Dieu, c'est violent. Parce que si ces enfants nés de nouveau ne font pas le travail auquel Dieu les appelle, c'est-à-dire d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, et le Tarn en fait partie, Midi-Pyrénées en fait partie, la France en fait partie, on peut dire ce qu'on veut de la France, le problème des Français, c'est qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Mes frères et sœurs, je vous amène à réfléchir à une chose. Si la France était si mal que cela, ce pays était si inconfortable que cela, pourquoi il y a tant d'hommes et de femmes qui viennent en France en fuyant leur pays? À votre avis, pourquoi? Parce qu'on n'est pas, si mal que cela en France, excusez-moi. Moi, je ne me plains pas. Le français, c'est un râleur. Pourtant, je suis français, hein. Donc je me pointe du doigt. Le français, c'est un râleur. Le français est toujours mécontent de tout. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Bien sûr. Mais en tant que chrétien, n'avons-nous pas quelque chose à apporter à la France? Je m'adresse à vous, Groyétois, Groyétoises. Mais en même temps, c'est un message qui s'adresse à tous les chrétiens de France. Que prêchent mes collègues? Sans cesse et sans cesse. Rappelant sans cesse et sans cesse de telles vérités, pourtant, qu'on devrait tous connaître et vivre. Mais posez-vous la question, ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas amené une âme à Jésus? Posez-vous cette question personnellement devant Dieu. Ça fait combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis avec vous. Mais ça fait beaucoup plus de temps que vous êtes là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas amené une âme, dans une année, 365 jours à Jésus? Réfléchissez. Combien de fois le Seigneur a mis quelqu'un sur votre route et au lieu de lui parler de Jésus, vous lui avez parlé de la météo? Arrêtez avec la météo. Ici, le Seigneur nous invite à prendre conscience dans sa parole, à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever avec compassion. Il n'est pas dans la nature humaine d'être compatissant. Sinon, les tribunaux seraient vides, les prisons seraient vides. Sinon, en voiture, en ville, où vous voulez, il y aurait moins de cris, de colère, et j'en passe. La compassion. Mais elle peut prendre place, la compassion. Et normalement, elle doit prendre place. Je pense que vous serez d'accord avec moi, dans un cœur transformé par Dieu. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Sinon, c'est qu'il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Et la chair est toujours là. c'est un cœur transformé par Dieu, un cœur transformé par Dieu et rempli du Saint-Esprit, dans lequel se trouve la compassion. Et au verset 12, il va y avoir quelques chefs des fils d'Éphraïm. On a lu leur nom. Et ces quatre hommes, d'entre les chefs d'Éphraïm, acceptent par la foi les paroles du prophète Oded. Ils auraient pu la refuser. Mais ils acceptent, ils pèsent chaque mot, ils réalisent, ils prennent conscience. Ils se disent, là, on ne peut plus continuer ainsi. On attire la colère de Dieu. On n'est plus en accord avec Dieu. On n'est plus uni avec le cœur de Dieu. On est allé trop loin, c'est notre chair qui a pris le dessus. Et ces quatre hommes, ces quatre chefs d'Éphraïm ont l'attitude que nous devrions avoir également. Le péché nous irrite. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'irrite. Le mensonge m'irrite, l'hypocrisie m'irrite, tout ce qui vient du cœur de l'homme irrégénéré m'irrite. C'est la raison pour laquelle, sur le plan personnel, on doit veiller sur nous-mêmes et sur notre cœur, afin de continuer à aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, afin de continuer à se développer spirituellement à l'image de Christ. Ce n'est pas seulement quelques mots dans la Bible, c'est une réalité à vivre. Et les paroles de ce prophète vont donc agir sur leur conscience, bien sûr. Ils ne la cautérisent pas, ils ne viennent pas chercher à se donner bonne conscience, ces chefs d'Éphraïm comme les autres. Non, 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 ils sont réveillés par ces paroles, ils sont interpellés par ces paroles, ils sont saisis par ces paroles. Mes frères et sœurs, on ne peut pas rester indifférent face à tout ce que nous ordonne de faire Jésus. C'est pas moi, le pasteur Laurent Lenoir, qui vous ordonne de le faire. Je me permettrai pas. Je ne fais que rappeler ce que la Bible dit. Ils sont touchés dans leur conscience. Ils se laissent réveiller dans leur conscience. Ils se laissent guérir dans leur conscience. Ils se laissent remettre debout dans leur conscience. Et ces paroles, donc, à ce moment-là, de ce prophète Oded, vont les rendre capables de parler au peuple de Juda, avec conviction, avec une ferme conviction qui vient de Dieu. Ils se laissent saisir par l'Esprit de Dieu, est-il écrit. Mes frères et sœurs, dans le cadre de ces cultes d'adoration, je prie pour vous, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et tous ceux que le Seigneur rajoutera à cette Église, autant de temps qu'il me donnera d'être le pasteur au milieu de vous, pour que vous soyez saisis par le Saint-Esprit. Attention à la manière dont vous vous approchez de Dieu, à la manière dont vous écoutez Dieu, à la manière dont vous vous positionnez devant le Saint-Esprit qui est présent dans ce lieu. On ne joue pas avec Dieu, Dieu est saint. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est saint. Pas parce que je suis né de nouveau, on m'a baptisé dans un baptistère, j'ai prononcé quelques paroles de foi. Non, ça s'arrête pas là, la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle m'amène à prendre une position. Alors peut-être avez-vous besoin d'être renouvelé? Laissez le Seigneur vous renouveler rapidement. Vous avez besoin d'être guéri dans votre cœur de certaines choses du passé, mais laissez le Seigneur Jésus vous guérir. Vous avez besoin de réaliser avec humilité que vous en êtes qu'au béaba, peut-être. Oui, mais vous allez grandir en vous attachant à la parole de Dieu et à Jésus. Et même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous marchez avec Dieu, vous avez besoin de renouvellement spirituel. En profondeur, ces hommes se laissent saisir par le Saint-Esprit. Ce sont des chefs. Certes, ils ont été avec l'armée, mais là, ils se disent, là, on est allé trop loin. Là, on n'agit pas correctement. On n'agit pas selon le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. La Bible dit que Dieu est amour. Le problème, c'est que même si nous sommes sous la grâce et non plus sous l'ancienne alliance, en Jésus-Christ, ça ne nous permet pas de dire, de faire et d'agir n'importe comment et de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus atteindre les âmes. C'est faux et j'y arrive dans quelques minutes. Ils vont être des instruments. Que Dieu soit béni quand on est un instrument entre ses mains. Pour amener les vainqueurs d'Israël à une attitude de compassion envers leurs frères. Et versets 14 et 15, nous l'avons lu. Les soldats abandonnèrent les captifs, ils abandonnèrent le butin devant les chefs, donc ces quatre hommes, chefs d'Éphraïm, et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms, nous l'avons lu, qui viennent d'être mentionnés, se levèrent, prirent les captifs, les prisonniers, et ils vont prendre le butin, et ils vont employer ce butin, non pas à s'enrichir eux-mêmes, mais ils vont l'employer à enrichir les captifs. Ça, c'est de la compassion. Le Seigneur nous a donné des grâces, des faveurs, des largesses. Il pourvoit tous nos besoins. Si quelqu'un disait le contraire, il y a un problème. Mais on est tous d'accord. Il pourvoit nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je ne parle pas que de l'aspect matériel, attention. Je parle de l'aspect spirituel, bien sûr aussi, et avant tout. Nous avons tout à notre disposition, spirituellement. C'est un trésor qui nous a été acquis à la croix, par le sacrifice, le tout accompli de la croix et la résurrection de Christ. Nous avons son esprit, nous avons les arts de l'esprit, bref, etc., etc. Quelle richesse. Mais en quoi employons-nous ces richesses? À quoi servent-elles? À dire, je suis riche. Mais je suis riche pour qui? Pour moi ou pour Dieu? Suis-je riche pour Dieu et pour les hommes ou pour moi? Les richesses qu'il nous a données, les talents qu'il nous a confiés, doivent être utilisés pour les autres. Ça va être utile pour ma propre vie spirituelle, parce que ça m'équipe, mais c'est pour les autres. Et quand vous regardez le regard de Jésus, la manière de faire de Jésus, les paroles de Jésus, le ministère de Jésus, et j'y reviendrai encore inlassablement, Jésus s'occupait toujours de l'autre. On a besoin de reprendre conscience dans nos assemblées de Dieu de France. On a besoin de reprendre conscience dans l'assemblée de Dieu de Groyer que ce que nous avons fait ou que ce que vous avez fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Parce qu'il y a trop d'hommes et de femmes à Groyer et dans cette partie du Tarn et dans tout le département du Tarn qui sont en train de mourir dans leurs péchés et qui ont droit à la compassion. La Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils vont leur donner des habits et des chaussures. Ils vont les faire manger, ils vont les faire boire, parce qu'ils avaient faim et soif. Ils vont les oignir d'huile pour les rafraîchir. Ils vont les conduire sur des ânes. Ils leur disent « Ne marchez plus à pied, on est là, on vous donne ce qu'il faut », parce qu'ils étaient fatigués. Et ils vont les conduire dans la ville de Jéricho, la ville des palmiers, afin qu'ils y soient bien et heureux. Et eux, ensuite, ils retournent à Samarie. Ils ont fait leur travail. Et chez eux, trois choses se succèdent d'une manière donc admirable. Trois choses se succèdent chez eux, chez ces quatre hommes, d'une manière admirable, et ce grâce à la parole du prophète Odède. C'est la foi en la parole de Dieu. C'est la repentance que produit la parole de Dieu. Et c'est enfin l'amour. L'amour qui est au-dessus de tout. Il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, dit Paul, 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne. Si je ne manifeste pas l'amour, il n'y a plus de connexion de cœur à cœur avec Jésus. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui a de l'amour, et l'amour, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, le ressent. Quand vous avez un contact avec un inconverti, j'en parlais un peu vendredi soir, par rapport au sujet Jésus pleinement Dieu et pleinement homme, eh bien, quand vous avez un contact avec quelqu'un et que vous avez ce cœur rempli, cette vie remplie d'amour, la personne en face, elle le ressent. L'amour. Inséparable de l'œuvre de Dieu dans le cœur. L'amour pour les coupables. L'amour pour nos frères et sœurs, bien sûr. L'amour pour les âmes perdues. Et c'est ainsi que l'on peut accomplir l'œuvre de la grâce envers les autres. Et l'œuvre de ces hommes n'est pas terminée. Il faut encore ramener tous ces malheureux dans leur pays. Tous ces malheureux, il faut les ramener dans le pays pour les mettre à l'abri. Pour les mettre à l'abri. Gloire à Dieu. Il faut les ramener dans le pays. Pour les mettre à l'abri. Et Jéricho, même si, bien des années auparavant, c'est une ville sur laquelle il a été prononcé une malédiction, à ce moment-là, la ville de Jéricho, ville des palmiers, en quelque sorte ville de protection paisible. Jéricho, d'ailleurs, nous dit l'Écriture, dans un autre texte, dont les eaux étaient mauvaises, autrefois, ont été assainies par un des prophètes de l'Éternel. Ce lieu, malgré tout, où apparemment il fait bon vivre, devient leur refuge. Devient leur refuge. Ce n'est qu'après les avoir amenés sous la protection de leur Dieu que ces quatre hommes les quittent pour retourner chez eux, mais pas avant. Je me souviens, il y a maintenant plusieurs années en arrière, ton jeune converti, et puis je n'ai pas changé, hein, à ce sujet-là, j'aimais parler énormément de Jésus. Et quand la réunion du soir, du vendredi soir par exemple, fin de semaine, était là, moi, j'étais dans le cadre de l'église, malgré ma vie professionnelle, ma famille, mes enfants, et etc., etc., j'étais là. Et la réunion débutait à 20h30 le soir. 20h30, c'est pas tôt, hein. 20h30. Et elle finissait, pratiquement toujours par rapport au temps de prière, l'évangélisation, la guérison, l'appel pour les inconvertis, etc., parce que ça bougeait pas mal, eh bien, ça terminait aux environs de 22h. Et il y avait du monde, hein. Je vous parle de ça dans les années 80, moi. Il y avait du monde, hein. Et il y avait du monde, des gens qui venaient, qui étaient amenés par des chrétiens, qui venaient d'eux-mêmes parce qu'ils avaient été invités par un prospectus, par un évangile avec l'adresse, etc. Et je me souviens que, pourtant, je travaillais à l'époque dans le bâtiment, j'étais façadier, donc vous imaginez un peu le travail, la fatigue de la journée, que ce soit l'été ou l'hiver, hein. Mais je me faisais du bien dans la maison de Dieu, c'est vendredi soir, c'était l'entrée du week-end. Et j'avais envie qu'une seule chose, une seule envie quand j'arrive à 20h30, c'est que, malgré tout, je le confesse, c'est que le pasteur soit pas trop long dans sa prédication. Je le dis, franchement, pour que je rentre pas trop tard chez moi pour aller me coucher. Que j'étais fatigué de la semaine, de travailler sur l'échafaudage, etc. Et donc, mais pendant le temps de prière, pendant, eh bien, la prédication de la parole, dans la communion fraternelle, le Seigneur me renouvelait physiquement. Au point qu'à 10h du soir, au lieu de partir en courant de l'église. Je restais, je bavardais avec les frères et sœurs, mais j'avais toujours ce désir de partager ma foi, de partager le butin, alléluia, spirituel, avec toutes ces âmes que mes frères, que mes sœurs, que nous-mêmes nous amenions. Et parfois, il m'arrivait de quitter l'église, il était minuit. Mais je me levais le lendemain matin, même si c'était le week-end, un peu plus tard que d'habitude, pour profiter. Mais en même temps, j'étais pas fatigué, j'étais pas épuisé, le Seigneur avait renouvelé mes forces. Et puis le lendemain, recommencer avec le programme de l'église, parce que j'avais pas peur non plus de m'investir dans la chorale où on faisait des répétitions, eh bien, assez longues. Et puis également, par rapport au travail d'évangélisation dans la rue, par rapport à ceci, par rapport à ça. Aujourd'hui, il faut pas trop en demander aux chrétiens. Ils sont fragiles. Personnellement, ça m'a pas tué. Mais ça m'a fortifié. Ça m'a permis, et d'autres, et beaucoup d'autres pourraient témoigner, peut-être même ici, ça m'a permis d'acquérir encore un peu plus. Et de donner encore un peu plus. On a l'impression que plus on donne, bien, on va tout perdre. Non, plus on donne avec le Seigneur, c'est le contraire, plus on reçoit. C'est l'arroseur arrosé. Alléluia. C'est ça, la logique de Dieu. Et ici, ces hommes vont faire ce qu'il faut faire. Et ils vont rentrer ensuite chez eux, parce que là, la mission est accomplie. Est-ce que notre mission est terminée? Non. Jusqu'à mon dernier souffle, elle est devant moi. Viendra un temps où elle s'arrêtera, alors j'entrerai, si je suis resté fidèle, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le ciel de gloire. Et là, je pourrai, entre guillemets, me reposer de toutes les œuvres accomplies. Je crois qu'il est bon, vous le comprenez, mes frères et sœurs, de suivre l'exemple de ces hommes. Marchons dans le même chemin, marchons par la foi, mais surtout marchons dans cet acte d'évangélisation, d'évangéliser avec compassion. Évangéliser, c'est avant tout, d'abord et par-dessus tout, avoir compassion de la souffrance des autres. Quand j'étais jeune stagiaire, il m'est arrivé de suivre un de mes formateurs. Enfin, je les suivais, bien sûr, tous ces formateurs, pasteurs que j'ai eus pour me former, pour me préparer, pour le ministère pastoral. Et il arrivait que, parfois, eh bien, il y ait avec certains de ses collègues, quand elle pouvait être là, que l'épouse de mon formateur, le pasteur formateur, soit aussi présent. Je me souviens, l'une d'entre elles, elle avait une sale habitude. Alors je lui ai jamais dit pour pas la blesser. Mais il y en avait une d'entre elles qui avait une sale habitude, parce que même si c'est enregistré, on ne peut pas savoir, puisque j'ai eu plusieurs formateurs. Mais il y en avait une d'entre elles, elle avait une sale habitude, c'est que quand on arrivait dans une visite, dans une chambre d'hôpital ou de clinique, la personne venait d'être opérée, elle était en souffrance, enfin bref, et s'asseyait. Moi, j'écoutais, j'étais en formation. J'écoutais, je regardais faire. Et elle s'asseyait et elle parlait avec le malade, mais elle ne faisait pas ce qu'il fallait faire. C'est que, en parlant avec le malade, au lieu de manifester de la compassion, c'est-à-dire souffrir avec lui, s'occuper de lui, l'écouter, lui donner des conseils de l'évangile pour l'encourager, elle lui parlait, ou elle leur parlait, de tous ses problèmes. Ah, mais c'est vrai, hein. Et moi, j'étais assis, je regardais ça, je dis, mais c'est pas possible. Et je me mettais à la place de la personne qu'on visitait. Je dis, si je suis à sa place et qu'elle me fait ça, elle va sortir de là, mais je vais être encore plus malade. Ma tension va monter, ma fièvre aussi, les douleurs vont augmenter. Mais la personne disait rien, elle était malade, elle était pas bien. Et elle lui racontait tous ses problèmes. Elle disait, j'ai mal dormi la nuit dernière, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal aux pieds. Enfin bref, elle lui racontait, ou elle leur racontait toutes ses misères. Vous imaginez, je viens chez vous, vous avez besoin de parler, d'ouvrir votre cœur, d'être aidé, et je commence à vous raconter toutes mes... Et il y en a des misères dans ma vie, hein. Comme dans la vôtre, hein, je ne suis pas exempt. Surtout en tant que pasteur. Si j'arrive et que je vous raconte toutes mes misères, et je dors mal la nuit, et je suis réveillé, je me jette à genoux pour prier pour certains d'entre vous, plus que d'autres peut-être, vous n'êtes pas avec moi, vous ne le savez pas. Vous ne voyez pas. J'ai versé des larmes par rapport à ceci, ma fille, mon gendre, ma mère, enfin, mes parents sont au ciel, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Si je commençais à parler de toutes les misères, on en a tous, c'est ça sur la terre, le problème il est là. Mais vous allez me dire, pasteur, par éducation, par gentillesse, oui. Pasteur, merci d'être venu, mais vous auriez presque envie de rajouter, mais vous ne le ferez pas, mais merci, ne revenez plus. Et ça se comprendrait. Je me rappelle de ce collègue qui faisait, donc il était invité pour une mission, c'était du côté de la Normandie, et il me racontait ceci, il me dit, le premier jour de la mission, ça a duré plusieurs jours, 5-6 jours, c'était pas une mission de 2 jours, hein, et tous les soirs, il prêchait l'évangile. Et quand il est arrivé le premier jour dans l'église, premier soir où il va pour prêcher, quelques heures auparavant, il tombe malade. Mais pas une maladie qui l'empêche de prêcher l'évangile. Il a mal à la gorge, il a de la fièvre, il est vraiment très mal. Alors il dit, Seigneur, aide-moi. Et il prêche l'évangile. Premier soir, il fait un appel, des malades s'approchent, des inconvertis s'approchent, des gens se convertissent, des malades guérissent. Au nom de Jésus. Le deuxième fois, il est encore plus malade le deuxième soir. Il continue, il fait des appels, il prêche l'évangile avec la force que Dieu lui donne. Il prie pour les malades, des malades sont guéris, des gens se convertissent. Tous les matins, quand il priait, il disait, Seigneur, guéris-moi, comme tu es en train de guérir tous ceux pour qui je prie en ton nom, en leur imposant les mains, comme dit l'Écriture, les mains aux malades. Et le troisième soir, pareil, le quatrième soir, pareil, le cinquième soir, pareil, etc., jusqu'à la fin de la mission. Et alors, il ne comprenait pas, il était toujours malade. Et les gens qui venaient, eux, au nom de Jésus, ils étaient guéris, les voyaient être guéris. Ils disaient, Seigneur, mais pourquoi pas moi? Et c'est à la fin de la mission que Dieu l'a guéri. Ça l'a marqué. En définitive, qu'est-ce qu'il a fait, ce pasteur? Il s'est oublié, il a prêché l'évangile, il a prié pour les autres, le Seigneur les a guéris, le Seigneur les a sauvés, l'église a été édifiée, et après sa mission, quand il est rentré chez lui, Dieu l'a relevé à son tour. Mes frères et sœurs, la priorité des priorités, c'est que nous nous occupions des autres sans nous oublier, bien sûr, et Dieu ne nous oublie pas. Être à l'écoute de son prochain, retrousser ses manches, aider, conseiller, apporter donc un soutien spirituel, moral, voire matériel, financier. La réponse de Dieu à tous les problèmes des êtres humains, c'est qui? C'est Jésus. On y reviendra toujours. La compassion, ça veut dire souffrir avec. Et ça, c'est synonyme d'amour, de bienveillance, de miséricorde, d'indulgence, de bonté, de compréhension, de patience, etc. La compassion est à vivre aujourd'hui. Et je vais conclure. Je l'ai souligné tout à l'heure, très rapidement, permettez, mais certains croyants aujourd'hui en arrivent à dire les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Oui, oui, c'est vrai. Mais ils vont plus loin que ça dans le raisonnement. Les temps ont changé, pasteur. La situation politique, la situation spirituelle, la situation morale, etc., était différente dans les débuts de l'ère de l'Église, les premiers siècles. Et donc, automatiquement, pasteur, vous comprenez, l'Évangile pénétrait mieux dans les cœurs. Eh bien, c'est faux. La situation politique, la situation morale, la situation spirituelle des premiers siècles était aussi compliquée que la nôtre aujourd'hui. La situation politique au temps du Seigneur, je fais vite, Israël, n'oublions pas, était occupé par les Romains. Pardonnez, mais c'est pas évident à vivre. Israël, quand vous lisez Actes 5, etc., on est au début, connaissait le trouble par des contestations. Il y avait ce fameux Teudas, il y avait des gens qui s'élevaient, etc. Il y avait des contestations, des troubles. C'est pas évident. Et ils avaient tendance à l'époque à tout mélanger, comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Au point que quand même l'homme dont il est question à un moment donné, qui est un enseignant de la loi, qui se prénomme Gamaliel à Jérusalem, dit « Attention, ne tombons pas dans le piège de nous mettre à dos le Seigneur en combattant l'Église, enfin en combattant ces gens, les disciples, parce qu'ils mélangeaient un peu tout. Il y avait contestation, trouble, mélange, toutes sortes de choses. La situation morale au temps du Seigneur, mais c'est la même qu'aujourd'hui. Luc chapitre 15, pas seulement, la Bible nous dit qu'il y avait des gens de mauvaise vie. Mais que tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Parce que Jésus dégageait de la compassion, de la miséricorde et de l'amour. Ce qui n'était pas toujours le cas, et très souvent d'ailleurs, chez les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, bref, là c'est plutôt politique, mais ils ou les sacrificateurs, les scribes, je reviendrai dans le sujet sur la parabole du bon samaritain, et on se rend compte que, eh bien, il y avait un problème de miséricorde, d'amour et de compassion. Mais il y avait aussi des gens de bien. Luc chapitre 5, verset 1 à 5, c'est un centenier romain, mais il témoigne auprès de Jésus en disant, c'est quelqu'un qui est, eh bien, donc tout simplement formidable, je le traduis ainsi, il a fait du bien, il s'est occupé de nous, il a permis la construction de la synagogue, etc., etc. Donc, Seigneur, il mérite que tu guérisses son serviteur. C'était quelqu'un de bien. En définitive, la situation politique, effectivement, de ce peuple, et je termine, de cette période, excusez-moi, aurait pu amener le peuple de Dieu à se laisser aller, à dire oh, « c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop difficile ». Mais on se rend compte qu'en définitive, c'est tout à fait le contraire. Ils vont continuer à rester à la brèche, ils vont continuer à prier, ils vont continuer à rester unis. Souvenez-vous de acte 4, alors qu'ils ont voulu arrêter Pierre et Jean d'enseigner dans le nom de Jésus, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que là, on veut les empêcher de parler de Jésus. Ils vont aller vers les leurs, c'est-à-dire ils vont vers l'Église, et là, ils racontent à l'Église ce qui s'est passé, et l'Église ne se lamente pas, l'Église ne commence pas à être en colère, l'Église ne commence pas à prier en disant « fait que le feu descende sur ces païens ». Non, l'Église, elle s'unit à Pierre et Jean pour prier pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils annoncent la parole de Dieu avec conviction et avec force. Ils s'unissent pour prier pour justement ces opposants, ces gens difficiles, ces persécuteurs, pour que le Seigneur les touche à salut. Ils manifestent quoi donc ? Ils manifestent de l'amour, ils manifestent de la miséricorde, ils manifestent de la compassion, ils manifestent de la patience, ils manifestent tous les principes du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben relisez, acte 5, il y a encore, non pas seulement 3000, mais 5000 âmes qui vont passer de la mort à la vie. Et pourtant, si vous lisez le texte, acte 5, vous allez vous rendre compte que ça bagarre. Mais il continue à être plein de compassion. On est là pour vous. Pierre et Jean, j'en ai parlé tout à l'heure et je termine sur cet exemple. Quand ils s'arrêtent devant le boiteux de naissance, ben, ils manifestent de la compassion. Alléluia. De la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. On n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on n'est pas bien riche financièrement, mais on est riche spirituellement. On a un butin spirituel, on le partage avec toi. Quelle compassion! Ils auraient pu passer, hein? Bon, écoute, on a autre chose à faire, nous on va les prier, on est entre nous, et voilà, c'est formidable, béni soit Dieu, on est bien. Non, non. Et lui, il va rentrer avec eux dans le temple ensuite, parce qu'il est guéri, parce qu'il est rétabli, parce qu'il est béni. Parce qu'il a été au bénéfice de la compassion de ces hommes et de Dieu. Mes frères et sœurs, ça c'est un premier point. L'évangélisation. Je vous pose une question. J'ai terminé le message, mais je vous pose une question. Voulez-vous, il y a de la place dans ce lieu de culte, hein, il y a encore de la marge. Voulez-vous que ce lieu se remplisse? Qui c'est qui ne veut pas? Je m'aurais étonné que quelqu'un lève la main. Si vous le voulez, eh bien, ça passe par vous. Ce n'est pas moi, hein, tout seul, qui vais amener toutes les âmes de Groyer au salut. Hein. Alors là, si vous pensez ça, vous vous êtes trompé. Hein. Moi, j'en amène quelques-unes, je fais mon travail de pasteur, etc. Je témoigne de ma foi à des gens. Mais c'est votre travail. Les plus jeunes, jusqu'aux plus âgés, Vous avez des voisins, des voisines, etc. Priez pour eux, demandez à Dieu qu'il vous donne des occasions, il va vous les donner. Ne parlez pas de la météo parce qu'elle se trompe toujours. Vous pouvez changer quelques recettes culinaires, pourquoi pas, mais parlez du Seigneur Jésus. Avec compassion, avec amour. Au lycée, au collège, etc. Dieu va vous donner des occasions. Amen. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Père. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous éclairer encore et encore et de nous rappeler l'essentiel, Seigneur. L'essentiel, c'est ce que nous venons de voir, c'est ce que nous venons de souligner. C'est ce que nous venons de, Seigneur, d'étudier encore. Et que cette Église, comme toutes nos églises en France, soit la brèche dans la prière, mais aussi dans l'évangélisation. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.